Code Philosophy Première de Père Marie-Dominique Philippe, le 8 mars l'an 2000, à Saint-Jodard.
Parler, c'est une question. Pourquoi nous parler des catégories après avoir parlé de la substance et pas l'inverse? Très bonne question. C'est vrai, il y a deux connaissances des catégories. Avant la saisie de la substance et après la saisie de la substance. Il y a une saisie métaphysique des catégories et il y a une saisie logique des catégories. La saisie logique des catégories est antérieure, c'est celle que la plupart du temps les gens atteignent et récitent les catégories. La substance première, la substance seconde, la quantité, la qualité, la passion, bon, les 10 catégories. Tandis que la métaphysique cherche les principes propres de l'être. Or, les principes propres de l'être ne sont pas très nombreux. C'est la substance dans l'ordre de la détermination. Et une fois qu'on a saisi la substance, on reprend les catégories, non plus du point de vue logique, parce que catégorie veut dire ce qui est attribué. Donc, ce qui est attribué, c'est la logique. Dans le langage, on attribue à Pierre d'être intelligent, on attribue à Pierre d'être passionné, on attribue à Pierre, ainsi de suite. Ça, catégorie. C'est attribution, les grandes attributions. Mais une fois qu'on a découvert la substance, on peut revenir sur les manifestations de l'être. Ce n'est pas directement ce qu'est l'être. Ce qu'est l'être, on l'a par le point de vue de la substance. Quel est le rapport de la figura, de la figure avec la substance? Quel est le rapport de l'habitus et la substance? Et ainsi de suite. Oui. Alors à ce moment-là, on regarde non plus la catégorie, comme attribution, mais on la regarde en elle-même au point de vue de la réalité. Que signifie la qualité dans la réalité de la personne? Quand on dit qu'il y a telle qualité, il y a des gens qui ont des telles qualités et qui, au point de vue personne, dans leur personne, n'ont pas grand-chose. Mais ils ont des qualités très brillantes qui attirent la substance, l'être. C'est radical, ça n'attire pas. Tandis que la substance, c'est profond, c'est la réalité. Mais ce qui se voit, ce qui brille, ce qui séduit, c'est toujours la qualité. Donc, il y a deux regards sur les catégories. Toujours. Le point de vue de la catégorie comme catégorie, et le point de vue de la catégorie par rapport à la substance. Je reviens sur ce que je vous disais hier. Comprenons bien la place de ce qu'on appelle l'habitus pour l'intelligence. L'habitus métaphysique de sagesse. Celui-là aide l'intelligence à aller le plus loin possible. Donc, l'habitus vient qualifier l'intelligence. Et l'habitus qualifie l'intelligence dont la rend plus pénétrante, plus aiguisée. On voit très bien, grâce à l'habitus de sagesse, on pénètre le plus loin possible et on ne peut jamais s'arrêter. Celui qui ne peut jamais s'arrêter, ça vaut qu'il a l'habitus. Comme au point de vue de l'art, on peut avoir un habitus aussi, quand à la place de griffonner, de chercher, on a intérieurement le besoin d'aller le plus loin possible. Et on recherche tout le temps. Et on n'est jamais satisfait. Parce que l'habitus d'art commence par l'idéal. On a une idée. Et elle doit s'incarner. Et c'est dans l'incarnation de cette idée qu'on n'est jamais content. Parce qu'on a l'habitus. Tandis que celui qui griffonne, il est content tout de suite. Parce qu'il n'a pas l'idéal. Il n'a pas d'habitus. On a uniquement des dispositions. Des dispositions. On dira de quelqu'un, oh, il est capable, je vois bien, il est capable. Il a des dispositions. Mais il n'a pas encore acquis la perfection. Du reste, dans les habitus intellectuels, on peut aller toujours de plus en plus à gagner dans la perfection, dans la détermination. D'une certaine manière, l'intelligence est infinie. Elle a une possibilité d'aller toujours plus loin. Déjà dans l'habitus d'art, il y a l'intelligence pratique, donc qui est toujours liée à la matière. Alors elle ne peut pas, d'une certaine manière, gagner toujours. L'architecte pourra s'arrêter en disant, je crois que c'est très difficile d'aller plus loin. L'adéquation entre le point de vue de son idée et des matériaux. C'est important, parce que seule la disposition peut fausser l'intelligence, pas l'habitus. Je ne peux pas, par l'habitus métaphysique, de sagesse métaphysique, je ne peux pas fausser mon intelligence. C'est dans la ligne de la finalité de l'intelligence, la recherche de la vérité, qui va toujours plus loin. Mais la disposition, elle est encore dans la recherche. Alors, je puis m'arrêter. C'est ça qui est très curieux. Et à ce moment-là, je m'arrête à des habitus intellectuels moins forts. L'habitus de logique, l'habitus mathématique. Les mathématiques ne sont pas une sagesse. C'est pour ça que les mathématiciens, comme mathématiciens, font des erreurs. L'habitus mathématique est un habitus extrêmement enraciné en nous. Quand on a l'habitus mathématique, c'est l'habitus le mieux enraciné en nous. Très curieux. C'est pour ça qu'on dit une tête de matheux. Parce qu'on a l'impression que l'habitus prend tout. Et c'est vrai, les mathématiciens, l'habitus prend tout. Il y avait le père Gérard Deslauriers, dominicain, qui a fait mathématiques supérieures. Il rédigeait sa thèse, étant moine, étant religieux. Et je lui demandais, parce que je l'aimais beaucoup, parce que c'est toujours intéressant de parler à un vrai matheux, quelqu'un qui a un véritable habitus, c'est toujours intéressant. Il vous fait découvrir des choses que vous ne voyez pas. Et je lui demandais, combien de personnes pourront comprendre votre thèse ? En maths, on peut demander ça. Et un grand matheux, on peut lui demander. Alors, très humblement, c'était pas de l'orgueil, c'était l'humilité. Il me dit, je crois qu'il y a trois personnes qui pourraient comprendre ma thèse au monde entier. Et il me l'a cité. Je crois qu'il y a deux, il n'y a qu'eux qui pourront comprendre ce que je dis. Les autres ne comprendront pas. Il dit, alors le jury, ces trois-là ne seront pas là, ou ça n'a pas d'importance. Moi j'écris pour la beauté du mathématique, la grandeur du mathématique. Ils refuseront, ou s'ils sont intelligents, ils diront, je comprends pas, mais c'est peut-être vrai. Une leçon d'humilité. Alors, c'est très curieux de voir que dans la phénoménologie, il y en a deux. Il y a une dépendante des mathématiques et l'autre dépendante de la poétique. Donc de l'art. Vous voyez, c'est pas l'habitus métaphysique. L'habitus métaphysique, il ne peut pas engendrer la phénoménologie. Et l'habitus mathématique peut être un soutien merveilleux du CERL. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas saisir le CERL. Et puis, Lévinas, c'était une phénoménologie toute différente. Le visage, la figura, vous voyez. Instinctivement, c'est la figure, la physionomie d'un paysage. Et si on est attentif, on voit que ça fait deux phénoménologies ayant même caractère descriptif, mais disant deux choses tout à fait différentes. Il y a chez Husserl une mise entre parenthèses de l'être, ce que le matheux fait, il met entre parenthèses l'être, l'upoké. Et si on n'est pas un peu mathématicien, on ne comprend pas ce que c'est que l'upoké. Et puis, le point de vue de Lévinas, alors plus facile, vous voyez, plus général à comprendre, plus fin. Lévinas a une finesse étonnante. Et quand on connaît un peu le Saint-Père comme phénoménologue, à Fribourg, il était venu faire une conférence avant d'être pape. Après, quand on est pape, on ne fait plus de conférences philosophiques. C'est le deuil philosophique d'être pape. Alors, il ne fait plus. Mais il la faisait encore comme cardinal. Et c'était tout à fait ça. Il prenait les deux. Il aime beaucoup Edith Stein, elle, phénoménologie de Husserl. Et il aime beaucoup Lévinas, phénoménologie de la figura. C'est intéressant parce que ça fait comprendre de l'intérieur ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, l'habitus mathématique peut permettre un retour sur ce qui est pensé, d'une façon très formelle. Et l'art poétique peut permettre une phénoménologie affective, Lévinas. Des deux côtés, c'est l'habitus qui devient comme une l'habitus mathématique qui devient comme une disposition à la métaphysique, à la phénoménologie, et l'habitus d'art qui devient comme une disposition à la phénoménologie affective. Je voulais ajouter ça pour préciser ces deux espèces de phénoménologie qu'on voit aujourd'hui. qui sont très différentes, tout à fait différentes, mais qui s'accordent. Lévinas aime bien, il aimait bien Husserl, mais il disait c'est trop formel, c'est trop... Il voulait dire c'est trop du côté mathématique. Le mathématicien a une rigueur extrêmement grande de la pensée. Et c'est intéressant de se demander qu'est-ce que le mathématicien saisit de l'être. Qu'est-ce que quelqu'un comme Lévinas saisit de l'être. On a donc ces deux extrêmes des qualités, la figura et l'habitus. La figura qui est la qualité dans la quantité, elle unifie la quantité, la physionomie d'un paysage. La physionomie de la Terre pour les cosmonautes. Pour la première fois, on avait dit photographie de la Terre. Et c'était une figura. Quelle physionomie la Terre a-t-elle de la Lune? Des gens qui n'ont vécu que dans la Lune, il n'y en a pas. Des gens qui n'ont vécu que dans la Lune, quelle physionomie aurait-il vis-à-vis de ces gens terrestres? Ouais, c'est intéressant de savoir ça. La Lune, elle a sa physionomie, puisque il y a la croissance de la Lune, il y a la pleine Lune, et il y a les premiers quartiers, la délicatesse du premier quartier, la finesse du premier quartier, et la grosse plénitude de la Lune. C'est des physionomies tout à fait différentes. Et c'est les mêmes. Pour nous, vous voyez, c'est intéressant de voir ça, que l'apparence varie et peut varier d'une façon aussi grande que la figura, la physionomie d'un paysage, le visage de l'être humain, l'enfant, le vieillard, et puis l'habitus qui est intérieur et qui qualifie mon intelligence, et qui donne à mon intelligence sa physionomie. C'est vrai que l'intelligence a des physionomies très différentes, et il y a certaines personnes qui n'en ont pas de physionomie. C'est curieux, on cherche, puis il n'y a pas d'unité, parce qu'il n'y a pas d'habitus. Il n'y a que des dispositions. Et c'est cela qui faisait l'intérêt de rechercher quelles sont les matières qui vous donnent un habitus dans vos recherches. Est-ce qu'il y a un habitus d'historien? Je soulève le problème, parce qu'il est très actuel. Est-ce qu'il y a un habitus d'historien? Aristote dit « L'art est plus proche de la métaphysique que l'histoire. » Parce que pour Aristote, l'historien n'avait pas d'habitus intellectuel. Il est resté dans les dispositions. Tandis que l'artiste il a un habitus. Donc, il est proche du métaphysicien. L'habitus de l'intelligence. Et l'art regarde l'intelligence sous un point de vue, non pas l'intelligence pure, mais l'intelligence liée à la matière. Il y a d'autres qualités qu'il faut regarder, des qualités tout à fait sensibles. les couleurs. C'est vrai, ça fait partie de la figura. C'est intégré dans la figura, c'est sûr. C'est intégré dans la figure. Mais ça peut être séparé. La couleur est indépendante de la figura. Les qualités sensibles de mes sens, du toucher. Quand je touche cette table, elle est particulière. Est-ce que c'est du vrai bois? Est-ce que c'est quelque chose de uniquement dans l'ordre de la manifestation? Le goût, l'œil qui voit. Donc, il y a des qualités sensibles. C'est curieux que le philosophe a distingué les qualités sensibles des qualités communes. Et je crois que c'est important de faire cette distinction. C'est même capital. Les qualités que nous voyons, les qualités sensibles, sont toujours liées à la quantité. Vous n'avez pas de qualité sensible sans quantité. Mais la qualité, comme qualité, est quelque chose d'indivisible. Vous la sentez. On la connaît en la sentant. C'est très difficile de décrire ce que c'est que les qualités. Comme qualité, vous tournez autour, hein? Et vous dites ça, vous tournez autour. Ça vaut plus seulement que vous ne l'attaquez pas en face. Elle est indivisible. On les saisit. On les connaît en les saisissant. Il y a des gens qui ne savent pas saisir les qualités. Et qui saisissent le fondement de la qualité, qui est la quantité. Et ce sont les qualités communes. Mais la qualité sensible et mesurable par le point de vue de la quantité. Autrement, elle ne l'est pas parce qu'elle est indivisible. Elle est ou elle n'est pas. Elle est indivisible. Vous la saisissez. C'est le propre, justement, des cinq sens qui saisissent des qualités particulières. Vous ne saisissez pas par la main le son, si ce n'est que le son peut très bien emprunter une voie particulière, quantitative, alors là on peut la mesurer. La qualité du son ne se mesure pas, et elle a des qualités propres. Ces qualités sont utilisées par la figura. Ces qualités sont utilisées par l'habitus comme des moments importants, très importants. Parce que dès que j'analyse la figura, je vois que la qualité modifie la figura. C'est vrai, une qualité très intense attire, c'est un centre d'attraction qui modifie complètement la manière de regarder la figura, la figure, c'est sûr. On voit ça tout le temps. Il suffit de faire pousser, par exemple, dans un paysage, un groupe d'arbres, mettre un point violent et très intense dans un coin, ça modifie tout. Donc, le philosophe est très attentif à ce que représentent les qualités sensibles. Les qualités sensibles me permettent d'avancer dans la connaissance. C'est pas la quantité qui me fait grandir dans la connaissance, mais la qualité. Elle est une voie très directe à la connaissance et à la saisie de la substance. Donc, elles sont très intéressantes au point de vue spéculatif. Et elles sont très intéressantes au point de vue de l'art. Parce que, d'une certaine manière, je peux les saisir, je peux les reproduire, et par là, posséder la possibilité de la figura, de la figure. Donc, c'est l'élément, le sens de l'élément que me donne la qualité. Quelque chose qui ne bouge pas. La qualité transforme la figura, mais elle n'est pas faite par la figura. Vous voyez ? C'est la qualité qui me donne le sens de l'indivisible. Donc, la qualité me donnera le sens du ti esti. Ceci est. Elle comprendra la différence entre ce qui s'impose comme indivisible et ce qui reste relatif, ce qui peut se modifier. La différence entre la saisie d'un principe indivisible, la qualité, c'est l'annonce du principe dans le sensible. C'est indivisible. Je ne modifie pas une qualité. Mais je ne modifie pas les sensibles communs, qui, eux, sont mesurables. Donc, cette distinction-là est très importante. Et je le vois tout de suite qu'au fond, ce qui me donne le sens, ce qui me permet d'avoir le sens des principes de l'indivisible, c'est la qualité. Mais les qualités propres, les qualités communes, au contraire, c'est l'adaptation. C'est les gens qui sont pour l'adaptation. Et c'est très curieux de voir ça, de remarquer ça. Les gens qui sont tout à fait merveilleux, il faut les deux. Il faut utiliser les gens qui sont pour l'adaptation, mais surtout pas pour le reste. Parce que vous supprimez tout absolu. Ils sont tout le temps mouvants. Et puis, au contraire, le sens de l'indivisible, quelque chose qui ne bouge pas, qui demeure, et qui est donné par la qualité sensible. Et il y a, pour toutes les couleurs, quelque chose d'unique. Et on le sait bien, le peintre le sait très bien, quelque chose d'unique. Et on cherchera à retrouver ça, mais on aura beaucoup de peine. Parce que justement, c'est l'analogue au principe dans l'ordre sensible. Et c'est quelque chose alors qui échappe. On ne peut pas le faire, ça jaillit. Oui, c'est en ce sens-là que le peintre restera réaliste. Il sait qu'il y a dans la nature quelque chose qu'il n'a pas, et qu'il ne peut pas avoir, et qu'il ne peut pas faire. Parce que la nature, elle est avant lui, et la nature a une richesse unique. la substance de l'homme, son âme, lui permet d'avoir certaines qualités qui sont propres à sa substance et qui se voient dans le domaine sensible et qui transforment la qualité en faisant qu'il y a des choses inédites. C'est étonnant, ça. Et puis, la qualité sensible, comme elle est toujours à partir de la quantité, dans son fondement, elle est mesurable. Alors, ce n'est plus le côté indivisible, c'est le côté relatif. Et puis, il y a encore d'autres qualités. Les capacités à transformer les choses. Les puissances et les impuissances. Il y a des qualités qui sont très spéciales, qui sont mes facultés intellectuelles, mes facultés affectives, l'intelligence et la volonté. Ce sont des qualités. Ce n'est pas ma substance. Ce sont des qualités que je puis saisir comme qualités. Quand je dis celui-là, il est capable d'aller loin dans son intelligence. Celui-là est capable d'aller loin dans sa capacité d'aimer. On saisit autour de la personne humaine, puisque c'est surtout à l'égard de la personne humaine, mais aussi des animaux. On verra que des animaux qui ont une puissance extraordinaire, qui ont une acuité de lumière très grande, et on caractérisera comme ça certains animaux en disant qu'ils ont une perception très particulière. Le dialogue du serpent et d'oiseaux. Ça se voit, ça. Ils se regardent. C'est très curieux. Et des gros serpents. Des poids. Ces capacités qu'on peut avoir au point de vue de l'intelligence, qui ne sont pas mon âme, mais qui viennent de mon âme, et qui émanent de mon âme et qui sont des qualités. Et ce qui arrive, c'est que certains philosophes considèrent ces qualités comme des substances. Platon considère que l'intelligence est une puissance. Descartes fait de l'intelligence une substance, la substance pensante, qui s'oppose à la substance quantifiée. Comment arrive-t-on à identifier la puissance avec la substance, à identifier ces qualités spirituelles, l'intelligence et la volonté, à les identifier à la substance? C'est très important de voir ça, puisque ça nous permet de comprendre comment on est tous inclinés à devenir platoniciens vers 40 ans. Très curieux. On a comme une telle admiration d'intelligence qu'on la considère comme substance. Et comment pouvons-nous distinguer la substance de ses qualités spirituelles? Nous distinguons l'âme de l'intelligence. Nous distinguons l'âme de la volonté. Et nous considérons l'intelligence comme une qualité spirituelle, comme une qualité au-delà de la matière. Nous considérons la volonté comme une qualité au-delà aussi de la matière, comme quelque chose de purement spirituel. Comment faire cette distinction? La substance, elle est principe radical de vie. Mon âme, principe radical de vie, source de vie. Mais mon âme, je ne la saisis pas directement. Je saisis sa présence chez moi et chez les autres. Mais elle n'est pas source d'activité ou de non-activité. Tandis que mon intelligence, elle pense, normalement, quand on suit un cours, qu'on le donne, on fait un acte d'intelligence. Et on est attentif à faire un acte d'intelligence. On ne se laisse pas prendre par l'imagination. On essaie de discerner les deux. Et après qu'on a parlé, on s'arrête de penser. On peut s'arrêter de penser, ou on peut continuer de penser sans parler. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui me permet d'actuer mon activité, de passer à l'acte et d'arrêter ce que je ne peux pas faire pour mon âme. Mon âme informe toujours mon corps. Vous n'avez pas la faculté de ne plus informer votre corps et de permettre à l'âme de se séparer du corps. Il y a quelque chose de radical dans l'âme. Et on la saisit comme un principe de vie. Et qui est toujours principe de vie. Mon âme est toujours unie à mon corps. Même quand je dors. Et c'est parce que mon âme est toujours unie à mon corps qu'il peut y avoir des insomnies. J'arrive pas à m'arrêter. Mon imagination va à la campagne. C'est l'imagination. C'est pas l'intelligence. C'est l'imagination qui erraine dans les insomnies. Je construis des choses extraordinaires dans les insomnies. Et toujours des choses qui me dépassent complètement. Et c'est parce que ça me dépasse complètement que je suis dominé par ces insomnies. Tandis que dans la pensée, ah, j'arrête. Je suis capable d'arrêter de penser. Ce serait grave si vous ne seriez plus capable d'arrêter votre pensée. Vous pouvez la communiquer aux autres par la parole. Ce serait grave si vous n'arriviez pas à arrêter cette communication, à vous taire. Et vous dites, cette personne, elle est assommante, elle parle tout le temps. Tout ce qu'elle pense, elle le dit. Non, elle peut l'arrêter. On s'habitue à ne plus parler, mais encore de penser. On s'habitue à faire des différences entre les deux. C'est le point fort qui montre la distinction entre les puissances et la substance. C'est que les puissances s'exercent indépendamment de l'âme. Elles s'arrêtent quand on le veut. Et elles pensent, elles s'exercent quand on le veut. On a un pouvoir, un dominium sur le fait de penser et le fait de parler. Tandis que je n'ai pas de pouvoir sur mon âme. Mon âme informe mon corps. C'est une donnée que je constate. Vous voyez, il y a là quelque chose de très important. Ça permet de maintenir le réalisme. Le réalisme est quelque chose que j'acquiers. Tandis que mon âme informe mon corps, je ne l'acquiers pas. C'est une donnée. Il y a donc, au plan spirituel, des facultés intellectuelles et affectives. Et ces facultés intellectuelles et affectives peuvent aller très loin. Je peux, par mon intelligence, remonter jusqu'à Dieu. Je peux, par mon affectivité, remonter jusqu'à Dieu. Tandis que mon âme reste collée à mon corps. Mais par l'intelligence, mon âme s'élève. Et elle ne s'élève pas substantiellement, mais elle s'élève par mon intelligence, par mon affectivité. Possibilité de séparer l'intelligence du réel et l'affectivité du réel. L'imagination. Tandis que l'imagination n'a rien à voir avec mon âme qui informe mon corps.